Bonjour, vous êtes sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans et c'est Clap. Clap, l'émission hebdomadaire consacrée à l'actualité cinématographique des écrans monceaux proposée par Michel Lafont. Pierre Barry reviendra la semaine prochaine. Cette semaine, eh bien, on ne peut pas dire que c'était extrêmement chargé. Trois nouveautés simplement sur les écrans monceaux. Peter Von Kant, Music Hall, quatre en fait, The Sadness et Les Mignons 2. Mais... eh bien, on va en profiter pour parler des films dont on n'a pas parlé la semaine dernière, puisque Clap était en relâche la semaine dernière. Donc, on parlera aussi de Irréductible, Decision to Leave, La Traversée et En Roue Libre. Voilà, pour ce qui est de la programmation musicale, je suis allé picorer un petit peu dans tous les films dont je vais vous parler. On commence par Isabelle Adjani qui chante un titre. Alors, en allemand, je n'ai jamais fait d'allemand, donc je vais écorcher ça derrière vos postes. Ne m'en veuillez pas, ça s'appelle Jeder totet was er liebt, each man kills the things he loves. C'est mieux en anglais hein, quand même. Bon, et eh bien c'est sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans et c'est quand même Isabelle Adjani qui chante. Voilà.
Töten die Liebe ganz jung, die anderen, wenn sie alt. Der drosselt mit der Hand Verlust, der mit der Hand die Gold gekrallt. Der Freundlichste nimmt ein Messer, denn der Tote wird bald kalt. Jeder tötet, was er liebt. Jeder tötet, was er liebt. La la la, la 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 la. Jeder tötet, was er liebt. Jeder tötet, was er liebt.
Doch jeder
töten, was er liebt.
Bon, vous l'avez compris, le titre c'est Jieber Toten Was der Liebt, hein, le dit assez à Isabella Gianni. Et c'est un titre que l'on entend dans le film dont on va parler tout de suite, Peter von Kant, ou plutôt Peter von Kant, parce que c'est un film qui se passe en Allemagne, donc on ne doit pas dire Peter, on doit dire Peter. Ça, c'est une erreur dans le film, notamment. C'est un film de François Ozon qui est proposé uniquement au Pathé Quinconce, mais qui sera repris au cinéaste lors de la rouverture en août, car je rappelle que les cinéastes se refont une beauté entre le 6 juillet et le 3 août, donc le cinéma est fermé. Et donc, certains de ces films qui auraient dû sortir au cinéaste sont plus ou moins transférés, on va dire, au Pathé Quinconce. Et c'est le cas de Peter von Kant. Peter von Kant, c'est de François Ozon, réalisateur, scénariste, dialoguiste, monteur et producteur français, qui a fait des études à la FEMIS, la prestigieuse école de cinéma français. Il est né en 67, il a commencé par des courts-métrages, et puis moyen-métrage en 97, Regarde la mer, et puis on passe au long-métrage. 98, sitcom avec Marina Devane et François Martouret. Qui, je crois bien, vient de décéder il y a quelques semaines. 99, Les Amants criminels avec Natacha Régnier et Jérémy Régnier. 2000, Goutte d'eau sur Pierre Brûlante avec Bernard Giraudot et Ludine Sagné. Alors, c'était déjà plus ou moins un remake d'un film de Fassbinder comme l'est ce Peter von Kant. 2001, Sous le sable avec Charlotte Rampling. 2002, le film qui a popularisé François Ozon, 8 femmes avec un casting prestigieux, Isabelle Huppert, Fanny Ardant, Catherine Deneuve, Daniel Darieux, etc. etc. 2003, Swimming Pool avec Ludivine Sagné, Charlotte Rampling. 2004, 5x2 avec Valeria Bruni-Tedeschi. 2005, Le temps qui reste avec Melville Poupeau, Jeanne Moreau. 2007, Angel avec Romolo Garay et Michael Fassbender. 2009, Ricky avec Alexandra Lamy et Sergi Lopez. 2010, Le refuge et Isabelle Carré. 2010, Potiche, film adapté d'une pièce de théâtre de Barry Egredy, Catherine Deneuve, Gérard Depardieu, Fabrice Luchini, gros succès public d'ailleurs. 2012, Dans la maison avec Fabrice Luchini. 2013, Jeune et jolie avec Marine Wacht et Géraldine Pellas. 2014, Une nouvelle amie, Romain Duris, Anaïs de Moustier. 2016, France avec Pierre Niney. 2017, L'amant double, Jérémy Régnier et Marine Wacht. 2019, Grâce à Dieu, Melville Poupeau, Denis Ménochet, Zoan Arlo. 2020, Été 85 avec Benjamin Voisin. Et 2021, le tout dernier, c'était Tout s'est bien passé, Sophie Marceau, André Dussolier, Géraldine Pellas. Vous voyez, une bonne vingtaine de films à l'actif de François Ozon. Avant, ce Peter von Kant. Peter von Kant, c'est un film qui dure 1h25. Peter von Kant, célèbre réalisateur à succès, habite avec son assistant Karl, qu'il se plaît à maltraiter. Grâce à la grande actrice Sidonie, il rencontre et s'éprend d'Amir, un jeune homme d'origine modeste. Il lui propose de partager son appartement et de l'aider à se lancer dans le cinéma. Alors, la rue de presse comme il se doit, très partagée, Renan Crowe dans Cinématiseur, troublant, sexy et iconoclaste du grand François Ozon. Jérôme Garcin dans l'Obs. Mise en scène par le Fassbinderien François Ozon avec autant de culot que de finesse, d'empathie que de distanciation. Peter von Kant est porté à un haut niveau d'incandescence par un Denis Ménochet énorme et à poil, qui semble à la fois brûler les planches et s'immoler par le feu de la passion. Gilles Kerdreux, West France, une expérience troublante et dérangeante à réserver aux amoureux d'un cinéma hors des sentiers battus. Isabelle Magnier, Télé 7 jours, nul besoin d'être un cinéphile pour savourer ce petit théâtre de la cruauté qui est avant tout du pur Ozon, avec son questionnement sur les rapports amoureux et la manipulation, son plaisir des dialogues, la verdeur des mots et sa mise en scène ludique. Sophie Joubert dans L'Humanité, plus démonstratif que l'original. L'original, c'était Les larmes amères de Petra von Kant, de Fassbinder, hein. Donc Peter von Kant penche vers le vaudeville, là où le film de Fassbinder, non dépourvu d'humour, était mystérieux, sec et dérangeant. Parfaitement orchestré et interprété, cette transposition infidèle et respectueuse est un bel exercice de style largement vidé de sa charge subversive. C'est un peu dommage. Étienne Sorin, Le Figaro, Peter von Kant est un autoportrait de l'artiste en drama queen. Il ne faut pas le prendre trop au sérieux. Le Parisien, certains trouveront fascinant cette plongée dans la tête, le cœur, les tripes, la créativité et la vulnérabilité d'un grand cinéaste. D'autres s'ennuieront ferme. Olivia Cooper-Adjian dans Cahiers du cinéma, malgré ses références constantes à la vie et à l'œuvre du cinéaste allemand, Difficile de voir en ce Peter Van Kant un réel hommage tant Fassbinder y est vidé de sa substance. Laura Tuilier dans Libération, de cette affaire un peu datée, de Pygmalion en détresse, Ozon ne semble rien avoir à dire, qui ne ressemble à une paraphrase explicative, un digest Fassbinderien, qui coche au pas de course les références et hommages cosmétiques. Et enfin, Thierry Chaise en première, comme toujours, Ozon nous offre un festival d'acteurs tous épatants, dans la sincérité comme dans l'outrance, Denis Ménochet en tête, mais en se détournant de l'âpreté de ce huis clos cruel, en y distillant de l'humour parfois à marche forcée, Peter Van Kant vire trop au pur exercice de style, perdant l'aspect foudroyant de l'original. Voilà, ce Peter Van Kant est proposé par le cinéma Pathé Quinconce, et je l'ai vu, ce Peter Van Kant. En général, moi, j'apprécie beaucoup le cinéma de François Ozon, et là, c'est quand même beaucoup moins le cas avec ce huis clos, hommage et sorte de remake d'un film de Fassbinder, dont je ne me souviens pas l'avoir vu. Hein, j'ai pas souvenir d'avoir vu ces larmes amères de Peter Van Kant. J'ai vu des Fassbinder, mais c'est plutôt les tout derniers, alors que là, c'était plutôt un des premiers, je crois. Alors, je dois reconnaître que je suis resté sur le pas de la porte, cette histoire de passion amoureuse d'un metteur en scène de l'Allemagne des années 70. Alors, certes, Denis Ménochet est impressionnant dans le rôle, mais je n'ai que très rarement accroché à ce récit au cours duquel donc Peter Van Kant tombe raide dingue d'un jeune homme, Amir, que lui a présenté son actrice fétiche, jouée par Isabelle Adjani et qui s'appelle Sidonie dans le film. Et cet Amir lui a tout de suite plu. C'est une sorte de coup de foudre. Le coup de foudre est-il réciproque? On n'en est pas vraiment sûr. Las, après lui avoir permis de lancer sa carrière et jouer donc les Pygmalions, Peter se fait larguer douloureusement par Amir. Et donc, douloureusement, c'est donc très douloureux pour cet homme, jusque-là dominateur et désormais prolongé dans le désarroi le plus profond et totalement inconsolable de la perte de ce jeune homme, ce jeune amour. Huis clos théâtral, outrancier, finalement assez artificiel, on est très loin de François Ozon des derniers films, souvent passionnants, comme Grâce à Dieu ou le tout dernier qui était sur le cancer. Enfin, sur la fin de vie, plus exactement. C'est un exercice de style, ce Peter Van Kant, un exercice de style sur un type égocentrique, tour à tour odieux, puis pitoyable. Un grand numéro, donc, de Denis Ménochet, mais c'est à peu près tout ce que je reconnais avoir apprécié dans le film, parce que je goûte pas forcément ce genre de cinéma intimiste, à la veine dramatique excessive, et n'ayant jamais été fan du réalisateur allemand Fassbinder. Bon, je n'ai pas perçu les, paraît-il, nombreuses allusions à sa vie et à sa filmographie. Donc, moi, je ne peux pas dire que je sois emballé par ce Peter Van Kant. Bon, l'avantage, c'est que ça dure 1h25. Mais bon, on la sent passer l'heure 25 quand même. Mais bon, peut-être que si vous êtes un fan de Fassbinder, c'est indispensable pour vous d'aller voir ce film de François Ozon proposé par le Pathé Quinconce. On change radicalement de genre et de cinéma puisqu'on part au Colisée. Au Colisée, où vous est proposé Music Hall. Music Hall, c'est un film belge de Gaëtan Likens et David Mutzenmacher. Ça, c'est pas sûr que je prononce bien. Tous deux sont réalisateurs et scénaristes. C'est leur premier long métrage. Ils avaient auparavant réalisé un court métrage. Et donc, ce film dure 1h22. Je suis même pas sûr qu'il fait 1h22. Je dirais même peut-être 1h15, 1h16, voilà. Mais enfin, s'il dit 1h22, ça doit être avec le générique et tout inclus, bien sûr. Alors, de quoi est-il question dans Music Hall? Alors, Music Hall, c'est un jeu de mots, hein. C'est pas Music Hall, c'est Music Hall, le trou, H-O-L-E, in English. Francis, petit comptable, officiant dans un cabaret miteux de Charleroi, a des soucis conjugaux avec Martine, son épouse. Après une violente dispute, il se réveille un matin et découvre la tête décapitée de sa moitié dans son congélateur. C'est le point de départ macabre et loufoque d'un polar burlesque, parfumé de gueuses, bien fraîches, de musique tzigane, sous fond de déni de la désagrégation du couple, où vont se croiser tous les types de névroses et de folies. Alors, bonne critique dans l'ensemble, François Forestier dans l'Obs, un film anti-déprime hautement recommandé, qui devrait être remboursé par la Sécu. Oui, il faut peut-être pas exagérer quand même, hein. Bon. Véronico Appelmonde, un polar réjouissant au mauvais goût assumé. West France, un croisement singulier et réjouissant entre Pulp Fiction et Dickeneck. Dickeneck, c'est un film culte belge. Yves Jéglet, le Parisien, le film ne peut pas plaire à tout le monde, oui, ça c'est sûr, mais réussit son coup avec trois fois rien. Thierry Chasse en première, devant la caméra, les comédiens, tous impeccables. Alors, je ne vais pas vous les citer, à part Vanessa Guide, moi, j'en connaissais aucun. C'est des comédiens belges, je pense. Hein. Tous impeccables, s'en donnent à cœur joie, dans l'outrance délirante. À l'écran, cet enthousiasme contagieux donne à Music Hall les aventures d'un film culte en puissance. Eh bien, je ne suis pas loin d'avoir la même opinion que les critiques. Effectivement, Music Hall, proposé par le Colisée, 1h22, ben, c'est un polar comédie ou une comédie polar belge, complètement frappadingue et qui n'est pas sans rappeler l'esprit des premiers films de Guy Ritchie avec personnages déjantés, vous voyez, Arnaque, Crime et Botanique, ce genre de film. Hein, voilà, personnages déjantés qui causent beaucoup et sont absolument sans scrupules et sans morale. On est clairement dans le caricatural absolu, mais ça fonctionne parce que l'humour noir est constant et le montage qui multiplie les flashbacks et les flash-forwards est assez virtuose pour multiplier les surprises. Parce que franchement, le montage est assez incroyable. Bon, alors l'histoire, c'est celle de Francis, vous l'avez compris, un comptable qui a des problèmes conjugaux avec sa femme et qui se réveille donc un matin avec sa tête découpée dans son congélateur. Alors comment en est-on arrivé là? Ben, c'est tout le propos et l'enjeu du film qui multiplie les personnages haut en couleur, avec des trognes pas possibles, tous plus déglingués les uns que les autres. Alors, il y a le patron du cabaret, les artistes de ce même cabaret, des hommes de main, des flics, des privés, des gitans, et j'en passe. Le film, c'est un pur délire scénaristique avec de très, très, très nombreux rebondissements où toutes les outrances sont permises avec des dialogues totalement décalés. Voilà. Alors, il y a peu de gens qui oseront aller voir le film parce que il n'a pas reçu beaucoup de publicité. C'est bien dommage parce que par son délire trash, il est bien supérieur à beaucoup de productions qui sont actuellement sur les écrans, et notamment certaines comédies françaises bien sages, bien propres sur elles. Bon, bref, c'est un film qui est très bien écrit scénaristiquement, la mécanique est parfaitement huilée, et sous ses apparences foutraques, les comédiens sont excellents et peuvent s'en donner à cœur joie dans des rôles vraiment outranciers. C'est une bonne surprise. En plus, je vous dis, ça dure 1h20 à tout casser et c'est vraiment un film que j'ai apprécié. Alors évidemment, c'est pas un film à proposer à toutes les personnes qui aiment un cinéma bien propre, bien sage. Non, ça, certainement pas. C'est à voir, c'est au Colisée, Music Hall, 1h20, donc voilà. Et puis le Colisée, c'est un cinéma qui n'est pas cher, donc c'est climatisé et c'est pas cher, donc faut en profiter. Bon, et non, la salle où c'est proposé n'est pas une grande salle. Bon, il y a quelques odeurs éventuellement un peu dérangeantes, mais bon, malgré tout, on l'oublie quand on va voir Music Hall. Alors, le film que tout le monde va aller voir, enfin tout le monde, tous ceux qui ont des enfants, en tous les cas, c'est celui dont on va parler maintenant, c'est Les Mignons 2, Il était une fois Gru. Voilà, alors ça, c'est proposé au Colisée, au Méga CGR, au Pathé Quinconce. Oui, alors c'est un film réalisé par Kyle Balda, Brad Abelson et Jonathan Delval. Eh bien, ces trois réalisateurs, ils ont chacun à leur actif déjà quelques productions. Kyle Balda, par exemple, a des courts-métrages, et puis il avait co-réalisé Les Mignons en 2015, co-réalisé avec le français Pierre Coffin. 2017, il avait co-réalisé aussi avec Pierre Coffin et Éric Guillon Moi, Moche et Méchant 3. Quant à Jonathan Delval, il était réalisateur, ou plutôt co-réalisateur avec Chris Renaud de Comme des Bêtes 2. Voilà, donc pour la réalisation de ce long métrage d'animation d'une durée d'une heure 28. Alors, de quoi est-il question dans Les Mignons 2, Il était une fois Gru? Eh bien, c'est la suite des aventures des Mignons 2, et plutôt, c'est l'enfance de Gru, comment il est devenu le méchant qu'il est désormais dans les films suivants. Alors, la revue de presse, Olivier Delcroix, Le Figaro, concentré sur 1h20, ce petit bijou de slapstick, signé Kyle Balda, joue à fond la carte de l'action non-stop, saupoudré d'un humour subversif et référentiel, qui pétarade comme le bouquet final d'un joyeux feu d'artifice. Victoria Guérin, dans Le Point, déclare que le film est drôle et efficace. Stéphanie Belpech, dans Le Journal du Dimanche, la folie qui se dégage de cette entreprise est réjouissante. L'Obs, que dit l'Obs, Xavier Lerpeur? Sans parvenir à dissimuler le tarissement de l'inspiration, c'est souvent drôle et enlevé, malgré une sensation de déjà-vu. Renaud Barognan, Le Parisien, ces scènes capables d'entraîner des parties de rigolade familiale sont hélas trop rares, le reste paraissant être réservé aux seuls enfants qui, à coup sûr, devraient faire un nouveau triomphe à leur mignon chéri. François Léger dans West France, le film est ridné et plaira aux plus jeunes, mais c'est pourtant un sentiment de lassitude qui finit par l'emporter. Sentiment de lassitude certainement aussi chez Mathieu Mercier dans Écran large. Entre vacuité d'Hollywood et syndrome de Stockholm, Les Mignons 2 ne parvient pas à faire grand-chose de plus que nous interroger sur la détresse des studios d'animation. N'en demeure intact que le talent des comédiens, au premier rang desquels Steve Carell en version originale et Michel Yeo. Gad Elmaleh en version française. Et le caractère design des Vicious Six, et c'est les Six Vicieux ou les Vicious Six, qui mériterait d'être le cœur du film. Ah oui, tiens, à signaler qu'on peut voir Les Mignons 2 en VO uniquement au Colisée. Il y a une séance, je crois, par jour, et il me semble que c'est la séance de 13h30. Enfin, François Léger, première après West France, à force de vouloir contenter tout type de spectateurs, Les Mignons 2 finit par ne plus rien raconter d'autre que son incapacité à se renouveler et à sortir des sentiers battus, une prison dorée dont on aimerait que Gru et les siens puissent un jour sortir. Ah ben, je ne suis pas allé voir Les Mignons 2, j'avais le temps, oui, mais je n'en avais pas vraiment l'envie, je ne suis pas un gros fan des films d'animation, et j'ai pensé que ce n'était pas indispensable d'aller voir Les Mignons 2, mais c'est le film qui a le mieux démarré mercredi, et il faut dire que mercredi, c'était encore la fête du cinéma, donc 4 euros la place. Donc c'était très intéressant d'aller le voir, soit au Colisée, soit au Méga CGR, soit au Pâté Quinconce. Voilà. Allez, petite pause musicale. On va écouter Albano et Romina Power. Alors ça, c'est pour les vieux, hein, les gens qui ont plus de 50 ans. C'est Felicita, un titre qu'on entend dans le film Irréductible, dont on va parler juste après. Alors, Felicita, Albano et Romina Power sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans. Ça doit bien être la première fois qu'on entend ça sur Radio Alpa.
Felicità è tenersi per mano, andare lontano. La felicità è il tuo sguardo innocente in mezzo alla gente. La felicità è restare vicini come bambini. La felicità. Felicità,
felicità, è un cuscino di piume, è l'acqua del fiume che passa e che va, è la pioggia che scende dietro alle tende, la felicità, è abbassare la luce per fare pace, la felicità, felicità,
felicità, è un bicchiere di vino con un panino, la felicità, è lasciarti un biglietto dentro al cassetto, la felicità. Cantare a due voci quanto mi piace la felicità, felicità.
Senti nell'aria c'è già la nostra canzone d'amore che fa come un pensiero che sa di felicità.
Felicita Romina Power, qui était la fille ou la petite fille de Tyrone Power, et Albano, qui était son époux à l'époque. Je ne sais pas ce qu'ils sont devenus, parce que je n'en ai plus entendu parler. Ça me paraît être leur unique tube. Oh, c'est des années 70. Pierre Barry, vous en direz plus là-dessus. Alors, Irréductible, bien justement, Irréductible, c'est un film qui est sorti la semaine dernière, un film de Jérôme Commander. Jérôme Commander, c'est un acteur, réalisateur, scénariste, il est né en 76. Il avait déjà réalisé un film en 2016, Ma famille t'adore déjà, co-réalisé avec Alan Corneau, mais c'est rien à voir avec Alain Corneau, Alan Corneau. Et il jouait dans ce film avec Thierry Lhermitte, et puis on l'a vu, Jérôme Commander, dans des films plus ou moins oubliables, comme Mystère à Saint-Tropez, Un tour chez ma fille, Attention au départ, par Gaston Lagaffe, Barbecue, Superchondriaque, Turf, etc. Il n'a pas que des chefs-d'œuvre dans sa filmographie en tant qu'acteur. Le film Irréductible de Jérôme Commander dure 1h25. Il est proposé au Colisée, au Méga CGR et au Pâté Quinconce. Vincent Pelletier, paisible employé aux eaux et forêts à Limoges, est incité à démissionner à cause d'une révision des effectifs, ce qu'il souhaite le moins du monde. Une inspectrice trop zélée décide de le muter dans les pires endroits au monde pour le pousser à renoncer. Elle l'envoie donc au Groenland pour protéger les chercheurs d'une base scientifique des attaques d'ours. On vous laisse imaginer la suite. Eh bien, il faudra pour ça se déplacer au Pâté Quinconce, au Méga CGR ou au Colisée. Alors, la rédaction du Parisien déclare que le film est une comédie irrésistible, hilarante et romantique. Le Journal du Dimanche, une comédie populaire dans le sens noble du terme, portée par une qualité d'écriture et une réalisation ambitieuse. Julien Barcillon dans Télé 7 jours, gentiment grinçant, drôlement irrévérencieux, potache à l'envie, Irréductible et irrésistible. Xavier Le Herpeur dans l'Obs, on craignait le pire aux confins du poujadisme populiste. Eh bien non, ce film remake d'une production italienne est porté par un trait comique, certes appuyé, mais jamais lourdingue. Véronico appelle le monde. La surenchère des péripéties relance d'une manière générale un film menacé par une certaine facilité. Gilles Kerdeau dans Ouest France, tout cela est sympathique, mais bien moins drôle que le laisse présager la bande-annonce. Étienne Sorin, Le Figaro, une comédie digne d'un sketch des Chevaliers du Fiel. Je ne suis pas sûr que ce soit un compliment. Marie-Lou Duponchel, Les Irréductibles, le long métrage réalisé par Jérôme Commander, avec Jérôme Commander, multiplie les clichés et l'humour réac jusqu'à la nausée. Adrien Brachet dans Marianne, on peut rire de tout, même des fonctionnaires, mais autant faire preuve d'inventivité. Là, les sketchs sont attendus, convenus, vus et revus depuis Coluche. C'est gros, et ça ne passe pas, et ça frise le mépris social. Voilà donc des opinions extrêmement divergentes à propos de ce film Irréductible proposé par les trois cinémas qui sont en activité aujourd'hui, à savoir le Colisée, le Méga CGR et le Pâté Quinconce. Donc, Irréductible, c'est une sympathique comédie qui égratigne gentiment, hein, gentiment la fonction publique à travers le personnage donc, de Vincent Pelletier, fonctionnaire à la vocation précoce et qui tient à le rester fonctionnaire et qui tient à le rester coûte que coûte, malgré les incitations à démissionner, qu'un DRH, ou plutôt une DRH du ministère, s'ingénie à lui proposer pour permettre de dégraisser la fonction publique. Or, comme Vincent ne veut pas renoncer à tous les avantages de sa fonction, eh bien, il va devoir accepter les mutations dans les endroits où les postes sont les plus improbables. Alors, le film est raconté sous la forme de flashback et c'est un récit donc, de ses mésaventures à ce Vincent Pelletier. Un film drôle qui joue la carte de l'humour décalé en permanence, où Jérôme Commander, aussi réalisateur, est entouré d'un casting avec de gros seconds rôles et souvent à contre-emploi. Par exemple, on a Christian Clavier en syndicaliste, très revendicatif, style CGT, Valérie Le Mercier en chef de mission, Gérard Depardieu déclarant son amour pour la France. Ça aussi, c'est un petit peu en décalage avec la réalité du personnage. Donc, on passe un agréable moment. L'humour est plus bon enfant que vraiment caustique, mais cela fonctionne. C'est un film plus bienveillant et tendre qu'il n'y paraît de prime abord. C'est vraiment drôle par moment, mais quand même, moi, j'aurais préféré aimer que ce soit un peu plus vachard, moins consensuel. Mais bon, ça, c'est la limite d'une comédie qui veut ratisser large et donc séduire le maximum du public. Comment lui reprocher? Il faut bien faire des sous. Il faut bien pouvoir faire un film ensuite. Donc, c'est pas aussi méchant qu'on aurait pu l'espérer. C'est un film populaire, comme l'a dit l'un des critiques, au bon sens du terme. Voilà, ça s'appelle Irréductible. C'est proposé, donc, je le répète, au Colisée, au Méga CGR et au Pâté Quinconce. Alors, on revient à un film sorti cette semaine, The Sadness, c'est interdit moins de 16 ans avec avertissement, rendez-vous compte, et c'est proposé uniquement par le cinéma Méga CGR, et encore, il y a très peu de séances, il n'y a qu'une séance, il me semble, vers 22h30, au fin fond de la nuit, enfin de la nuit à 20h30, 22h30, il fait pas nuit encore à cette période de l'année. Donc c'est un film de Robert Jabaz et c'est son premier long métrage en tant que réalisateur. Robert Jabaz, un réalisateur scénariste canadien, ou Rob Jabaz. 1h40, après un an de lutte contre une pandémie aux symptômes relativement bénins, une nation frustrée finit par baisser sa garde. Tiens, ça rappelle des choses, ça. C'est alors que le virus mute spontanément, donnant naissance à un fléau qui altère l'esprit. Les rues se déchaînent dans la violence et la dépravation, les personnes infectées étant poussées à commettre les actes les plus cruels et les plus horribles qu'elles auraient jamais pu imaginer. Alors là, on est ou pour ou contre, il n'y a pas de juste milieu. C'est Caroline Vier dans 20 minutes. Charge des frustrations d'une population mal dans sa peau qui se lâche soudain sous fond de pandémie, The Sadness n'a pas pour vocation de donner dans la légèreté. Sa folie furieuse en fait une œuvre intense en même temps qu'une expérience de cinéma hors du commun. Le Parisien, clairement, The Sadness affiche un niveau de violence et de gore proprement hallucinant, proposant des images jusqu'au boutiste qu'on a perdu l'habitude de voir sur grand écran depuis longtemps. François Léger en première, un défouloir avec 100 idées à la minute, chauffé à blanc et bâti à l'énergie pure. Bien plus qu'une curiosité, la naissance d'un cinéaste. Carrément. Hein. Vincent Maloza dans Cahiers du cinéma. Plutôt que d'entrechoquer les deux structures qui le régissent, film d'auteur naturaliste en appartement et film d'exploitation post-apocalyptique à ciel ouvert, The Sadness joue durant une magistrale première moitié d'un va-et-vient un peu somnambule de l'une à l'autre. On va comprendre ça. Le journal du dimanche, des dialogues improbables, des acteurs en roue libre, des situations délirantes, un spectacle qui revisite l'apocalypse zombie avec une ferveur où tout est permis, fou rire garanti. Mais il y a ceux qui ont détesté, et c'est Marius Chapuis dans Libération. The Sadness est dégueulasse. Ah ben oui, carrément, c'est le but. Mais c'est par son cynisme qu'il stupifie, par cette manière d'aplanir toutes les formes de violence, de tout recouvrir de la même désinvolture, bien moins iconoclaste qu'il ne s'imagine. Léo Moser, les Inrecuptibles de Sadness n'est qu'un énième survival zombiesque traversé de scènes ultra-gore, mais finalement parfaitement inoffensive. Bah, je n'ai pas vu The Sadness, non pas parce que j'ai moins de 18 ans, loin de là, mais tout simplement parce que à 20h, 22h30, ça faisait un peu tard. Et c'est un film qu'on peut voir uniquement donc au méga-CGR. Voilà, uniquement méga-CGR. Decision to Leave, c'est un film qui était proposé la semaine dernière au cinéaste, mais comme le cinéaste, je le répète, est fermé pour travaux, eh bien, la copie a été rapatriée, si on peut dire, au Pathé Quinconce, où on peut voir ce Decision to Leave en VO, pour un film qui dure 2h18 et dont le réalisateur est Park Chan-wook. Alors, Park Chan-wook, je ne vais pas vous faire toute la filmographie, parce que tout simplement, je ne l'ai pas noté, tout simplement. Voilà, je vous avoue la vérité. Alors, ce film Decision to Leave dure 2h18. Il a obtenu au dernier Festival de Cannes le prix de la mise en scène, carrément. Et June, détective chevronnée, enquête sur la mort suspecte d'un homme survenu au sommet d'une montagne. Bientôt, il commence à soupçonner Sore, je ne sais pas comment on dit, la femme du défunt, tout en étant déstabilisé par son attirance pour elle. Alors, il y a un critique a détesté, c'est dans Le Parisien, tous les autres ont beaucoup aimé. Alors on va commencer par celui qui a détesté dans Le Parisien. Pour cette fois, la forme aussi somptueuse, soit-elle, ça ne suffit pas. L'intrigue à tiroir est tellement télescopée qu'avec un peu d'attention, on en comprend les ficelles, le dénouement au bout de 20 minutes. Il reste alors 2 heures à tirer. Bon, voilà. Alors les autres, par contre, ont apprécié. C'est Mathieu Jaborska dans Écran large. Faux polar, vraie histoire d'amour et bouleversante radiographie des sentiments humains. Decision to Leave nous prouve une bonne fois pour toutes que Park Chan-wook est encore au sommet de son art et qu'il n'est pas prêt de redescendre. Gilles Kerdon dans Ouest France. Les images de ce film restent longtemps en tête et en plus, le temps passe. Et plus le temps passe, pardon, plus le parfum de Decision to Leave est entêtant. Oui, Fabrice Leclerc dans Paris Match. L'incroyable créativité de Park Chan-wook se retrouve encore dans ce film. Une idée de cinéma par plan et cette volonté de faire du spectateur un acteur, presque un décideur de l'intrigue. Olivia Cooper-Adjian dans Cahiers du cinéma, moins violent que les précédents films de l'auteur d'Old Boy, Decision to Leave, donne au polar des accents de mélodrame. Le film fait alors davantage que dépeindre un homme pris au piège de son désir. Il exprime la puissance d'attraction de deux êtres qui reconnaissent leur parenté en dépit de vents contraires. Nicolas Chaleur dans l'Obs, tout l'intérêt de ce basique instinct platonique, où partager un baume à lèvres incarne le summum de l'attention sexuelle, et de travestir un fantasme de love story en puzzle ludique pour spectateurs en manque de pur défi de cinéma. Decision to Live en est un, prix de la mise en scène mérité au Festival de Cannes. Et on continue avec Eric Neuf, le Figaro. Park Chan-wook détaille la passion d'un policier pour la principale suspecte impliquée dans son enquête et signe un thriller urbain plein de style. Jean-Luc Vachthozen, Le Point, impossible de ne pas succomber à cette échappée belle de 2h18. Télérama, Louis Guichard, le coréen Park Chan-wook se renouvelle avec cette passionnante variation autour du vertigo de Hitchcock. Et on continue, on termine plutôt avec Adrien Gombeau dans Les Échos. Sur un canevas d'enquête criminelle, le metteur en scène d'Old Boy se lance dans un exercice de style impressionnant. Prix de la mise en scène au dernier festival de Cannes, Decision to Live est un film retors et virtuose, une histoire de mort et d'amour qui finit. Voilà, donc Decision to Live, je ne suis pas allé le voir, je sais pas, 2h18, j'ai eu un peu peur. Pourtant, j'ai bien aimé certains films de Park Chan-wook, mais bon. Voilà, Decision to Live, c'est uniquement cette semaine au Pâté Quinconce, évidemment en version originale. Allez, petite pause musicale dans le film La Traversée dont on va parler dans un instant. Il y a un titre qui m'a bien plu, je ne connaissais pas ce groupe, L'Impératrice, ni le titre, Sonate Pacifique. Eh bien, c'est l'occasion de vous faire découvrir ça sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans. Sonate Pacifique, L'Impératrice, un titre qu'on entend, il me semble bien, à deux reprises dans le film La Traversée dont on parle juste après. Voilà.
Summer sun.
Sonate Pacifique, c'est le titre, le groupe c'est l'Impératrice, et c'est un titre que l'on entend dans le film La Traversée. Et bien justement, La Traversée, parlons-en. C'est un film qui est donc sorti la semaine dernière, c'est un film français qu'on peut voir au Méga CGR et au Pathé Quinconce. C'est un film de Varant Soudjian, réalisateur scénariste né en 78. Il a réalisé en 2018 Walter avec Alban Ivanov et Judith Elzheim. C'était pas mal d'ailleurs, moi j'avais bien aimé Walter. Et en même temps, en 2018, Inséparable avec Alban Ivanov et Ahmed Silla. Et là, on retrouve Alban Ivanov, mais pas Ahmed Silla, dans ce film La Traversée, 1h45. Éducateurs de quartier, Alex et Stéphanie emmènent 5 ados déscolarisés pour faire une traversée de la Méditerranée et les réinsérer par les valeurs de la mer. Mais arrivés au port, ils tombent sur Riton, leur skipper, un ancien flic de la BAC qui a tout quitté pour fuir la banlieue. Ces jeunes, c'est son pire cauchemar contraint, ils se retrouvent tous embarqués sur le même bateau pour une virée en mer de 15 jours. Une chose est sûre, après cette traversée, ils n'auront plus tout à fait la même vision du monde. Caroline Viédan, 20 minutes, La Traversée de Varant Soudjian, prend le respect avec autant d'humour que de bienveillance. Le journal du dimanche déclare que La Traversée est une sympathique traversée de la mer et de la vie. Le Figaro, Olivier Delcroix, la croisière amuse un peu, malgré l'océan de clichés qu'elle charrie dans ses filets à grosses mailles. Thierry Chaise, dans Ouest France, ce choc des contraintes a mené à transcender leurs a priori et trop programmatiques pour séduire entièrement, mais cette comédie joue suffisamment avec les clichés pour se hisser au-dessus de la moyenne. Nicolas Chalère dans l'Obs, pour une fois qu'une comédie met en scène des jeunes cités sans tomber dans la caricature et qu'elle charge l'explique sectaire autant que le pédagogue bien pensant, comment ne pas regretter un récit à ce point cousu de fil blanc et sa conduite si laborieuse ? Hélène Marzolf dans Télérama, l'enthousiasme contagieux des acteurs suscite quelques bonnes scènes au milieu, hélas, d'un océan de poncifs sur le vivre ensemble. Voilà, ça dure 1h45, c'est proposé par le Pathé Quinconce et le Méga CGR, ça s'appelle La Traversée. Alors évidemment, hein, comme l'ont dit les critiques, c'est plein de clichés et de stéréotypes. L'évolution des personnages et des situations est sans surprise et totalement prévisible dès le début, puisqu'il s'agit d'une comédie. Hein, mais néanmoins, on en ressortira quand même la qualité de l'interprétation, la spontanéité, l'énergie des jeunes acteurs, et puis Lucien Jean-Baptiste et Alban Ivanov, qui sont parfaits chacun dans leur registre. Alors l'histoire, donc, vous l'avez compris, c'est celle d'un groupe d'ados difficiles, comme on dit aujourd'hui, amenés par leurs éducateurs et éducatrices, pour faire une traversée de la Méditerranée sur un catamaran de location. Et là, le problème, c'est que le skipper, Riton, est un ancien baqueux, qui a démissionné de son métier pour ne plus avoir affaire avec des jeunes de banlieue. Voilà, donc les débuts sont forcément difficiles, mais comme dans ce genre de film, c'est toujours le cas. Et évidemment, les caractères des uns et des autres vont s'adoucir face aux épreuves rencontrées. Donc c'est un film qui joue classiquement sur les oppositions de personnalité. Là, ça ne fait absolument pas dans l'originalité. On voit ça régulièrement. C'est même devenu une stéréotype absolue des films avec des jeunes de banlieue. Ils sont toujours rebelles dans le conflit au début et puis au fond, ils sont gentils tout pleins, ils sont attachants quand on sait les prendre. Voilà, bon. C'est du pur angélisme sur le fameux thème du vivre ensemble et de la réconciliation des contraires. Mais je le répète, on est dans le registre de la comédie et ne peut pas en être autrement. C'est comme ça. Mais on va retenir quand même la fraîcheur des interprètes et donc on ne passe pas un moment si désagréable que ça, même si, reconnaissons-le, tout ça est bien convenu. Voilà, donc ça peut se voir. Et puis Alban Ivanov est un petit peu un contre-emploi dans ce rôle de explique de la BAC et il est bien parce qu'il est beaucoup plus sombre que dans les derniers films où on l'a vu. Il faut dire qu'Alban Ivanov, il doit faire 4-5 films par an. Il a remplacé Cadmera, certainement, parce qu'il faisait aussi ce genre de prestations il y a peu de temps. Voilà, donc La Traversée, Pathé Quinconce, Méga CGR. Là aussi, il me semble que c'est Pathé Quinconce, c'est Méga CGR. J'en suis pas absolument sûr à 100%. Pathé Quinconce, c'est sûr, parce que c'est là que je l'ai vu. En roue libre, c'est un film français de Didier Barcelot. Et Didier Barcelot, c'est un réalisateur, scénariste et producteur. Il avait auparavant réalisé un court-métrage, et là, c'est son premier long-métrage avec Marina Foy, c'est Benjamin Voisin. Benjamin Voisin, c'est lui qui jouait dans Illusion perdue. Alors, en roue libre, ça dure 1h29, 1h30, quoi. C'est la folle histoire de Louise qui se retrouve un beau matin prise au piège dans sa propre voiture, terrassée par une attaque de panique dès qu'elle veut en sortir, et de Paul qui vole la voiture et du coup la kidnappe. Et voilà tous les deux embarqués dans un road movie mouvementé. Alors, Thierry Chasse dans West France, rythmé, superbement accompagné par la BO de Peter Van Poole et porté par Marina Foïs et Benjamin Voisin, cette comédie de Didier Barcelos possède un charme fou. Voilà, eh ben, on continue avec Corinne Renouvelatilet dans La Croix pour son premier long métrage, Didier Barcelos. C'est une comédie tendre et fantaisiste qui tient parfaitement la route. François Forestier dans L'Obs, c'est amusant, parfois téléphoné, souvent un peu fantasque. Les deux acteurs Marina Foïs et Benjamin Voisin portent le film et le sauvent. Mathieu Victor Pujebet dans Écran large, si en roue libre est souvent alourdi par les clichés du road movie émancipateur, le film réalisé par Didier Barcelos parvient tout de même à surprendre et toucher par la chaleur de sa caméra, la tendresse de son écriture, l'incandescence de ses interprètes et la malice de ses ruptures de ton. Les Irréductibles de Jean-Baptiste Morin, Didier Barcelos signe en guise de premier film un road movie charmant porté par un duo de talents. Alors, Télérama, Mathilde Blottière, un road movie de plus sur une fameuse mur en panne d'élan. Très vite, le réalisateur de ce premier film envoie valser dans le décor les codes du genre. Ce sera plutôt un huis clos en mouvement où la drôlerie et l'imprévu surgissent à chaque tournant ou presque. Le Parisien du classique, mais renforcé par un duo de choc. On voit peut-être trop facilement vers où va nous mener cette route, mais l'alchimie reste présente et l'on est pris au rythme des rencontres, ce voyage initiatique intergénérationnel. Olivier de Bruyne dans Les Échos, premier film de Didier Barcelos, en roue libre est un road movie délirant, à la qualité inégale, à condition d'oublier les nombreuses facilités d'écriture du film. Les fans de Marina Foïs apprécieront sa prestation dans la peau d'une héroïne borderline. Ben, c'est pas le cas de Sandra Onada dans Libération, qui n'a pas dû apprécier. Convenue et artificielle, la comédie de Didier Barcelos suit deux abîmés de la vie qui s'apprivoisent en route vers le Cap Ferré. Voilà donc ce qu'on peut dire sur En roue libre, 1h29, proposé par le Pâté Quincon. C'est peut-être bien aussi, mais ça, c'est pas sûr, j'en suis pas sûr du tout, le méga CGR. En roue libre, donc, c'est un film qui repose sur un concept. Le concept, c'est Louise qui est infirmière et un matin, comme les autres, elle prend sa voiture, mais là, prise de panique, elle ne peut plus en sortir. Alors, même pas quand Paul vole sa voiture avec elle dedans. Alors, dit comme ça, hein, ça paraît pas très vraisemblable, et bon, d'ailleurs, ça ne l'est pas vraiment, mais c'est le concept, c'est le point de départ du film. En tout cas, tous les deux vont entamer un road movie, comme on dit, et vont apprendre à se connaître, chemin faisant, tout en croisant sur la route différents personnages. Voilà, donc une dose d'absurde au point de départ, et puis un film qui chemine entre scènes drôles et d'autres plus dramatiques, avec donc des changements de ton. L'intérêt du film réside donc dans la confrontation des deux personnalités de sexe, d'âge, de vécu différents. C'est assez plaisant, grâce surtout à la qualité du duo d'acteurs, Benjamin Voisin en jeune chien fou écorché vif et Marina Foïs en femme un peu paumée. Voilà. Alors on s'ennuie pas, hein, on s'ennuie pas. Les péripéties et les rencontres, souvent hautes en couleurs, se multiplient et relancent donc la machine qui, sans ça, faut bien dire, tournerait vite en rond. Mais donc, on a un néo-buddy movie, parce que c'est un road movie, mais c'est aussi un buddy movie, puisque les deux personnages qui d'abord ont du mal à cohabiter finissent par s'épauler mutuellement pour faire face à leurs difficultés de vivre. Voilà. C'est un film un petit peu doux-amer, tendre avec les personnages. Un petit film plaisant, bon, c'est pas non plus inoubliable, mais bon, pourquoi pas, après tout, aller voir ce En roue libre, parce que c'est pas trop long et c'est pas déplaisant du tout. Voilà, bon, allez. Hop, avant de nous annoncer les films à l'affiche la semaine prochaine, un titre qu'on n'a jamais entendu, une interprète qu'on n'a jamais entendu, je pense sur Clap, c'est Cora Vauquer. Oui, alors les plus vieux connaissent Cora Vauquer, c'était une des incarnations de la chanson Rive Gauche dans les années 50-60. Et là, sa chanson, c'est comme au théâtre, et on l'entend dans le film Peter Von Kant. Et là, c'est sur Radio Alpa, 107.3 FM, Cora Vauquer, comme au théâtre, c'est une chanteuse à texte, comme on dit, hein.
Le mobilier était anglais, du velours vert, de l'acajou. Le punch était martiniquais, il y avait des coussins partout. Et le Paris du mois de juin, à la fenêtre qui frissonne. Et les disques de Sinatra qui tournaient sur l'électrophone. Comme au théâtre. Comme au théâtre. Plus je repense à notre amour, à ses bonheurs et à ses peines, plus je me dis que tu avais le génie de la mise en scène. À l'acte 2, nouveau décor, j'avais rêvé un rêve fou. Tu l'exauces, nous prîmes l'avion pour des vacances à Corfou. Tu étais beau comme un Hermès de torse nu parmi les ruines, dans l'ombre bleue des grands cyprès qui s'étageaient sur la colline, comme au théâtre, comme au théâtre. Plus je repense à notre amour, à ses bonheurs et à ses peines, plus je me dis que tu avais le génie de la mise en scène. Lorsque ta femme nous surprit, ce fut moi la plus étonnée. Elle te savait infidèle, je ne te savais pas mariée. Elle n'était même pas jalouse, mais réclamait la voix vibrante pour ses bambins, le bon papa qu'avait volé une intrigante. Comme au théâtre. Comme au théâtre. Plus je repense à notre amour, à ses bonheurs et à ses peines, plus je me dis que tu avais le génie de la mise en scène. Le vaudeville tout à coup a remplacé la tragédie. Don Juan quittait son piédestal pour jouer l'éternel mari. C'était d'un drôle. On a parlé de trahison, de sacrifice. Mais ça ne me concernait plus. J'étais devenue spectatrice. Comme au théâtre. Comme au théâtre. Comme au théâtre.
Cora Vauquer, comme au théâtre, un titre que l'on entend dans le film de François Ozon, Peter von Kant. Qu'avons-nous la semaine prochaine à nous mettre sous les yeux? Eh bien, beaucoup d'avant-premières. Déjà, si vous nous écoutez en direct ce soir, c'est l'avant-première de Thor. Alors, à 19h, c'est en VO au Pathé. À 20h30, c'est en VF au Pathé. Au Colisée, c'est à 20h30 en VO. Et au Méga CGR, 19h45, 21h et 22h15. Et là, il y a de la salle Ice aussi. Donc ça, c'est ce soir, vendredi 8, pour Thor. On continue avec des avant-premières. Eh bien, c'est lundi. Lundi, c'est Ducobu Président. Et comme nous sommes en vacances scolaires à partir de ce soir, officiellement, eh bien, Ducobu Président, vous pourrez le voir à 13h40 au Méga CGR ou à 15h30 au Colisée. L'avant-première, lundi. Et puis lundi soir, ça, c'est pour les plus grands, encore que, c'est Menteur. Menteur, 20h au Méga CGR, 20h30 au Colisée. Tous ces films, Thor, Ducobu et Menteur, sortiront le 13 juillet et nous en parlerons, nous, le 15. Et puis, devrait sortir également La Nuit du 12 de Dominique Moll. Ça a l'air d'être un bon polar, ça. Dominique Moll, c'est Harry, un ami qui vous veut du bien, quand même. Et puis, le Woody Allen, qui sort en plein été, on ne sait pas trop bien pourquoi, Rifkin's Festival, qui devrait avoir droit à quand même quelques séances au Pâté Quinconce en version originale, parce que d'habitude, ce genre de film, c'est pour les cinéastes. Voilà, donc, les films à l'affiche la semaine prochaine. Et nous retrouverons Pierre Barry, pour en parler sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans. Pour cette semaine, eh bien, vous nous avez écoutés, donc vous savez ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé. Et puis, bon, bah, vous savez que les cinémas sont climatisés, donc si vous avez trop chaud, c'est un endroit où on peut se rafraîchir. Voilà, sur ces bonnes paroles, je vais vous souhaiter donc une excellente semaine cinématographique. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour la dernière de la saison, probablement, sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans. Thank you.